Donc, on va enchaîner sur donc, la conférence de clôture de ce forum, avant le film entre nos mains pour ceux qui le souhaitent. La conférence de Benoît Labourdette, donc j'aurais pu présenter avant, mais je vais le faire maintenant. puisque Benoît est effectivement intervenu dans l'atelier sur le téléphone portable de ce matin. Je voulais juste dire, parce que je crois que je l'ai dit, mais je ne l'ai peut-être pas dit en séance plénière, qu'en fait, cette conférence vient un petit peu pour nous, en tout cas, pour la commande qui était passée, un petit peu la boucle est bouclée, quoi. On vous a donné à voir plein de choses. La boucle est bouclée, non, elle n'est pas bouclée, mais elle tourne. Elle tourne. On a commencé par une réflexion, donc, avec Renier Fouillet, donc le sociologue, sur qu'est-ce que c'est que la technologie dans nos sociétés, les créations de nouveaux imaginaires autour de l'Internet, avec les nouvelles pratiques auprès des jeunes. Donc voilà. Ensuite, presque journée animée par Patrick Lebout sur, de son point de vue, de sa réflexion sur le cinéma, sur qu'est-ce que les technologies ont changé dans la pédagogie du cinéma et dans les écritures et leur rapport au cinéma, avec sa réflexion qui est la sienne et notre rapport aussi au monde aussi, parce qu'il travaille aussi sur cette thématique-là, mais d'un point de vue ancré de partir du cinéma et de voir un film ensemble en salle, avec deux jeunes réalisatrices donc, qui étaient là hier, et puis des diverses expériences de création, de films, d'ateliers, d'écriture web documentaire, web fiction, enfin plein de choses, jusqu'aux ateliers de ce matin. Et donc l'idée c'était qu'un peu Benoît Labourdette vienne un petit peu nous parler de tous les écrans en fait. La télé, l'ordinateur, la salle de cinéma, le téléphone, donc les quatre écrans, comment justement ces liens entre eux et les enjeux, à la fois économiques, culturels, que ça représente. Voilà. Donc Benoît, alors, il a plein de choses. Donc c'est un auteur, un réalisateur, un producteur, tu peux venir, hein. Donc il a sa propre société de production, qui s'appelle Vital Production. Il a réalisé des films, des documentaires, des œuvres expérimentales et participatives. Il est devenu expert dans le domaine des écritures numériques, puisqu'il fonde en 2005 donc, le festival Pocket Film, avec le Forum des images à Paris. Donc Pocket Film, ce sont les films tournés avec le téléphone portable. Il publie, donc, ce que je parlais tout à l'heure, en 2008, « Tournez un film avec votre téléphone portable » aux éditions Dixit. Avec donc, sa société de production, il met en place des projets d'édition vidéo, de développement web et développement numérique. Il enseigne également, il intervient à l'Université de la Sorbonne Nouvelle, à l'ESSAV, à Toulouse, et au studio du Frénois, également à l'École des Beaux-Arts de Paris. Voilà, donc il travaille beaucoup, à la fois dans le domaine professionnel sur ces techniques-là, et à la fois dans le domaine éducatif aussi, puisqu'il continue aussi d'animer énormément d'ateliers et de travailler autour du téléphone portable. Voilà.
Est-ce que j'ai bien... Oui, merci. est-ce qu'on va allumer le projecteur?
Ah oui, attends,
mais c'est pas urgent, hein, la seconde. Hein.
Appuie sur le bouton.
Oui, là, voilà. Non.
Non.
Voilà. J'essaie juste de fixer le micro, c'est pas simple.
Tu veux l'allumer tout de suite?
Vas-y.
Oui, on peut l'allumer. On peut l'allumer tout de suite. Ça.
Attends.
Je vais y arriver.
La reine a fait ça.
Ouais. Alors. Une seconde, hein, j'allume les choses et j'arrive.
Je veux que je t'éteigne.
On va voir si c'est assez lumineux, ça devrait aller comme ça, je pensais bien qu'on se voit. Alors en fait, ce que tu m'avais demandé, c'est les enjeux des nouveaux écrans, mais au départ, qu'est-ce que le numérique et les
enjeux des nouveaux écrans. Oui.
Et c'est vrai que il me semble, moi, assez important pour être outillé, si j'ose dire, pour aborder les sujets de toutes ces choses qui se passent dans les médias depuis quelques années. Il me semble, et je vais essayer de le faire très rapidement, il me semble que c'est important de savoir qu'est-ce que c'est que le numérique. C'est-à-dire concrètement, c'est quand même quelque chose dont on parle, le numérique, le numérique, le numérique. Ok, ben, très bien, mais c'est quoi concrètement le numérique? Alors, je sais, peut-être, est-ce évident pour tout le monde? Non. Bon, alors je vais commencer par ça, si vous voulez. Je vais être assez court, mais je vais commencer par quelque chose de très technique, en fait. Parce que le numérique, c'est une technologie, c'est pas autre chose. Et il faut commencer par là. Et en fait, si vous voulez, c'est comme toutes les techniques, ça n'a rien de compliqué, en fait. Une technologie, quelle qu'elle soit, en fait, c'est les professionnels qui compliquent les technologies, hein, pour se fabriquer leur métier, ou pour le conserver, ou des choses comme ça. Mais ceux qui sont honnêtes, je sais pas, que ce soit Stanley Kubrick ou Xavier Beauvois ou des gens récemment encore, ils disent ça prend 20 minutes d'apprendre la technique du cinéma et je pense qu'ils ont raison. Donc je vais essayer de faire en pas plus de 20 minutes qu'est-ce que c'est que le numérique. Si vous voulez, le numérique, c'est l'ordinateur. Sans informatique, il n'y a pas de numérique. Les deux sont intimement liés. Qu'est-ce que c'est qu'un ordinateur? Un ordinateur, ça, c'est une machine qui est capable de traiter des informations de façon automatique. Et en fait, c'est quoi traiter des informations de façon automatique? C'est faire des calculs, des additions et des soustractions. En fait, un ordinateur ne sait que faire des additions, des soustractions et des opérations logiques. Et ou, voilà, les quelques opérations logiques de base. C'est-à-dire que 1 plus 1 égale 2, que 1 plus 0 égale 1, voilà. Et à partir des additions et des soustractions, il est capable de faire des multiplications, des divisions, tout un tas de choses. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un ordinateur, c'est un appareil, un ordinateur comme une clé USB, comme tout ça, c'est un appareil électrique. Et en fait, un appareil électrique, c'est extrêmement simple. Un appareil électrique, c'est un interrupteur. Dans un ordinateur, en fait, il y a des milliards d'interrupteurs. C'est tout ce qu'il y a. Il n'y a rien d'autre que ça. Il y a des milliards d'interrupteurs. Et puis, il y a des... Au départ, c'était des lampes. Après, c'est devenu des transistors. Et puis ensuite, ça s'est changé en microprocesseurs. Des circuits qui permettent d'additionner ou de soustraire ces interrupteurs ouverts ou fermés, en fait. Le courant électrique, il passe ou il passe pas. Si vous voulez, on dit numérique, mais en fait, quand on dit numérique, on prend référence sur l'analogique. Qu'est-ce qu'on appelle l'analogique? L'analogique, si vous voulez, c'est le point de départ d'un projet humain assez fascinant, qui est la reproduction mécanique de l'image et du son. C'est-à-dire que avant l'invention de la photographie, puis du cinématographe, et avant l'invention du rouleau de cire d'Edison qui permettait d'enregistrer le son, on était incapable de reproduire mécaniquement le réel. C'est-à-dire, si on voulait représenter quelqu'un, il fallait le dessiner. Si on voulait entendre une musique, il fallait jouer d'un instrument de musique. Et en fait, le projet, ça a été de fabriquer des machines qui étaient capables d'enregistrer ces phénomènes, on va dire, physiques, et de les reproduire. Alors, le numérique, il vient dans un deuxième temps par rapport à ça. Qu'est-ce que c'est que l'enregistrement analogique? En fait, prenons le son. Le son, les deux sont aussi simples. Prenons le son. Qu'est-ce que c'est qu'un son? Un son, si vous voulez, c'est... Ça n'existe pas. C'est dans notre tête, en fait, un son. Mais en soi, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il y a l'air qui vibre. Si je fais ça, c'est exactement comme quand je lance un caillou dans l'eau. L'air, c'est un gaz. Et du coup, ça fait une variation de pression dans le gaz. Comme quand je lance le caillou, ça fait une variation de pression. Et puis l'onde se transmet et s'amenuise au fur et à mesure. C'est exactement la même chose. Lorsque je fais une variation de pression, comme ça, dans l'air, et ça se transmet. Cet air, il vibre. Il fait vibrer le tympan qui actionne tout notre mécanisme et qui fait qu'on entend quelque chose et que ça représente ce qui s'est passé physiquement. Enregistrer ça. Enregistrer ça, l'idée d'Edison, elle est tout à fait simple au 19e siècle. Et bien en fait, si je prends une feuille de papier très fine, et bien forcément, si je parle, et bien la vibration de l'air se transmet à la feuille de papier. Plus elle est fine, plus elle va se transmettre. Surtout, s'il y a un gros bruit, je vais la sentir vibrer. Enfin, s'il y a un petit bruit, il faut que la feuille de papier soit très légère. Et donc, cette feuille de papier, elle va vibrer comme ça, comme l'eau, si vous voulez. Et si j'accroche à cette feuille de papier un petit bâton, quoi, un petit bout de fer, si vous voulez, bah, le petit bout de fer, il va monter et descendre en fonction du son qui est à côté. Et si en dessous de ce petit bout de fer, je fais tourner un cylindre sur lequel il y a de la cire molle, et bien en fait, et que je le fais tourner puis je le fais avancer doucement en même temps, et bien en fait, ça va tracer un sillon plus ou moins profond en fonction de la plus ou moins forte variation de pression de l'air. Et après, ce qui est étonnant, c'est que je durcis le rhodopsire, donc j'ai un sillon, c'est un micro et un magnétophone que je viens de vous décrire, c'est ce qu'on appelle un phénomène de transduction, c'est-à-dire qu'on transforme une grandeur physique, la variation de la pression de l'air, en une autre grandeur physique, un sillon plus ou moins profond. Je durcis ce rhodopsire, et ensuite, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je le fais tourner sur le même objet, en fait, hein, sur la même petite membrane avec la petite barre de fer. Et quand je fais tourner mon rouleau, eh bien, vu que c'est plus ou moins profond, ça va faire vibrer le bâton, ça va faire vibrer la feuille, qui va faire vibrer l'air, et donc je vais reproduire le son. Ça, c'est ce qu'on appelle l'analogique. C'est-à-dire qu'il y a une analogie exacte, c'est exactement dans mon rhodopsire, ça représente dans les moindres détails exactement ce qui s'est passé dans la réalité. Par rapport à l'image, juste pour le raconter sur l'image, la photographie, peut-être vous connaissez peut-être mieux, la photographie finalement, c'est pour faire de la photographie, il faut déjà produire une image sur une surface, mais ça on sait le faire depuis bien longtemps avec la chambre noire, si vous voulez. Et on pouvait voir ces images, on pouvait peindre sur ces images, mais pour la conserver, en fait, Lycée Formiev, au XIXe siècle, il découvre qu'une solution, parce qu'il était s'occupait de gravures, etc., qu'une solution à base de sel d'argent, de fécule de pomme de terre, etc., noircissait à la lumière. Et donc, par conséquent, eh bien, il place, à l'endroit où l'image est produite, il place sa solution, et qu'est-ce qui va se passer? Ben, quand il y a beaucoup de lumière, ça va noircir, donc le ciel va devenir tout noir s'il était clair, et puis quand il n'y a pas beaucoup de lumière, ça va noircir moins, et puis ensuite la difficulté c'était de trouver la façon de fixer ça, parce que bien sûr si je l'expose à la pleine lumière, ça va effacer, tout va noircir tout d'un coup. Et bon, ça c'est la photographie, donc c'est quelque part presque plus simple que l'enregistrement du son. Ça c'est l'analogique. Ce qui est fabuleux dans l'analogique, si vous voulez, c'est que c'est la trace exacte de ce qui s'est passé. Le problème de l'analogique, c'est que c'est quelque chose qui est lié à un support. C'est complexe à manipuler. Entre les différents supports, les disques micro-sillons, les 78 tours, les 33 tours, le 35 mm, le 9,5, le 16, enfin tout ça, c'est tout à fait lié à un support. Et c'est quelque chose qui a une existence physique. C'est-à-dire qu'un disque micro-sillon, eh ben, je peux le faire marcher direct. Enfin, je veux dire, il suffit que je prenne une petite pointe et je l'entends, le disque, je peux même le voir. Le principe du numérique, c'est de manipuler les informations, images, sons, textes, tout ce qu'on veut, avec une machine. Je ne veux pas manipuler avec une machine mon rouleau de cire, enfin, comment je fais? Alors, pour passer au monde... Donc, si vous voulez, d'un côté, on a des ordinateurs qui savent compter. Et puis de l'autre côté, on a des grandeurs physiques. Il y a juste une chose, c'est que comme je disais tout à l'heure, dans un ordinateur, l'interrupteur il est éteint ou allumé. Si je regarde à la loupe, ou au microscope plutôt, la surface d'un CD ou d'un DVD, qu'est-ce qu'il y a dessus? Vous savez ce qu'il y a d'ailleurs? Il y a des micro-cuvettes, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un sillon, et il y a une cuvette ou pas de cuvette, en fait. Hein, c'est tout. Donc c'est beaucoup plus simple, et c'est beaucoup plus solide, si j'ose dire, que l'analogique. Parce que mon disque micro-sillon, si vous voulez, bah, vous vous souvenez bien, au fil du temps, ça frotte, ça frotte, ça frotte, et puis ça commence à craquer, etc. Parce que, ben oui, c'est un petit peu abîmé, donc ça affecte le son. Mais qu'est-ce qui se passe avec un CD, par exemple? Eh bien, soit j'ai du courant, soit j'ai pas de courant. Imaginons que mon CD est un peu abîmé, que ma micro-cuvette, elle n'est pas totalement, vous voyez. Mais en fait, l'information que l'ordinateur récupère, c'est du tout ou rien. Donc même si c'est un petit peu machin, on va récupérer une information toujours parfaite et exactement identique à ce qu'elle était à l'origine. Et c'est ça, si vous voulez, la grande particularité du numérique. Et en plus, vu que c'est des nombres, ce qui est assez incroyable, c'est que on peut même fabriquer des systèmes de gestion d'erreurs. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a des erreurs, on sait qu'il y a des erreurs de lecture, mais en fait, avec des calculs extrêmement savants, on réussit à pouvoir corriger les erreurs de lecture, etc. Comment ça se passe d'ailleurs sur un CD? On a ces micro-cuvettes, et en fait, on a un rayon laser qui éclaire le CD en train de tourner. Et en fonction de s'il y a une cuvette ou s'il n'y a pas de cuvette, il n'est pas réfléchi dans le même sens. Et derrière, il y a une petite cellule photoélectrique qui capte 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0 ou 1, noir ou blanc, cuvette ou pas de cuvette, courant et interrupteur ouvert ou fermé. Tout ça, c'est la même chose. On manipule, on ne peut pas, un ordinateur, il ne sait pas manipuler autre chose que des 0 et des 1, des tout et des rien. Mais alors, est-ce que j'ai bientôt fini là-dessus, mais c'est important de s'en rendre compte. Comment on fait pour convertir un son, une image, un texte, même un nombre, je sais pas, 213, comment ça peut devenir des 0 et des 1? Il y a des profs de maths ou de physique, non?
Oui.
Ah, donc vous savez, voilà ce que je raconte là pour vous. Vous savez comment on fait? Si vous voulez, c'est le système binaire. Alors, je vous le fais très vite, mais si vous voulez, simplement, c'est que nous, on compte en base 10. On a 10 chiffres pour compter. Vous savez ça. De 0 à 9. 1, 2, 3.
Il y a quelque chose sur l'écran?
Oui. Ça, c'est notre système, c'est ce qu'on appelle le système décimal. Mais en fait, si vous voulez, quand on veut compter quelque chose, c'est juste, j'ai deux trucs devant moi et je vais utiliser cette représentation là, ce 2. Mais imaginons maintenant que je n'ai pas 10 chiffres pour faire mes nombres, j'en ai que 2. On va les appeler 0 et 1, mais on pourrait les appeler A et B, ou noir et blanc, peu importe. Donc, si vous voulez, 0, ça, c'est dans mon système décimal, d'accord? Et ça, c'est dans mon système binaire. 0, c'est 0. OK. 1, c'est 1. Mais 2, comment je l'écris si j'ai que 2 chiffres? Pas ceux qui savent, hein. Ceux qui savent pas. Comment je peux représenter ça, quoi? Cette chose que je vois devant moi, mais j'ai que 2 chiffres. Je vous aide un peu. Nous, quand on compte, voilà, jusqu'à 9, quand on arrive à 9, on est coincé, on n'a plus de chiffres. Du coup, on en met 2. Et on part au début, on met un 1 et un 0, donc c'est 10. Quand on arrive à 19, on est coincé. Quand on arrive à 99, on en rajoute un troisième. Donc, par conséquent, c'est 10. Alors, il ne faudrait pas dire 10 d'ailleurs, parce que c'est pas... Voilà. Et pour 3, ce serait quoi?
1,
1, 1. Bravo, vous êtes fabuleux. Hein. Voilà. Et 4? Comment?
1-0-0.
Voilà, 1-0-0. Et 5? Ça score, c'est vrai. Allez.
Et 2010, ce que j'ai posé à mes élèves, on m'a regardé.
Voilà. Bon, ben, si vous voulez, je vous le fais, c'est 1-0-1. Hein. 6, c'est 1-1-0. Et c'est comme 9-99, 999, sauf qu'on y arrive beaucoup plus vite, quoi. 7, ben, c'est... Ok, et 8, du coup. Ouais. Et ensuite, 1001, 1002. Vous voyez, c'est exactement le même système, en fait, sauf qu'on n'a que 2 chiffres, donc on a tout de suite beaucoup plus de chiffres pour représenter les mêmes nombres. Donc tout ça pour dire que... Alors, vous allez me dire, mais attendez, bon... Pardon ? Vous allez me dire, mais bon, okay, quel rapport avec l'image et le son ? Ben, si vous voulez... On va dessiner, juste comme ça, vite fait, s'il veut bien marcher. Je sais pas, il va juste mettre en veille. On va dessiner un son analogique, d'accord? Alors un son analogique, on va le dessiner, hein, disons le sillon, on va dire c'est ça. Alors vous voyez, alors je dessine très mal, donc j'ai pas de souris, donc, bah, bref, mais donc il y a plein d'infractuosités, etc. Et on va dire ça, je veux le transformer en des 0 et des 1. Donc en fait, on va prendre un appareil qu'on appelle un convertisseur analogique numérique, quelque chose qui va enregistrer le son, qui va recevoir ce son, et puis qui va découper le temps en un certain nombre de tranches. C'est ce que vous savez, les CD, c'est 44,1 kHz. Ça veut dire qu'il y a 44 100 tranches par seconde. En fait, la seconde, elle est divisée en 44 000 tranches de temps. Et sur chacune de ces tranches, on va mesurer où on en est. Donc, si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est que, imaginons que j'ai vraiment à main levée, imaginons que ça, c'est mes tranches de temps, d'accord? Et imaginons que j'ai, 5-6 unités, comme ça, d'accord? Bah, du coup, par exemple, là, sur le début, bon, bah, je vais dire, allez, ma première tranche de temps, voilà, ça va être ça, disons que 1, 2, 3, ça va être 3. Et puis après, la deuxième tranche, c'est pas évident, parce qu'il faut que je trouve une sorte de moyenne. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, vous voyez, en fait, je numérise, c'est-à-dire je simplifie, je le transforme en des nombres. D'accord? Et ici, à droite, vu que c'est des nombres, j'ai une échelle, comme vous le voyez, et je me suis à chaque fois calé sur mon échelle. Et donc, je décide à la fois de la finesse du découpage, ce qu'on appelle la fréquence d'échantillonnage, et je décide aussi, pour chaque instant prélevé, de la finesse de l'analyse. Hein, c'est-à-dire de est-ce que j'ai 5 possibilités de hauteur, de volume de mon son, ou est-ce que j'en ai beaucoup plus? Alors, quand vous avez sur votre lecteur de CD ou sur votre CD écrit 16 bits, 44,1 kHz stéréo, ce qui est écrit sur votre lecteur de CD. Stéréo, ça veut dire qu'il y a deux sons, et pas un seul, un pour chaque enceinte. 44,1 kHz, ça veut dire 44 100 tranches par seconde. Et puis 16 bits, un bit, c'est un 0 ou un 1. Ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle les bits. Hein. C'est l'unité élémentaire d'information. Et il se trouve que eh bien, si on utilise 16 bits, c'est-à-dire si je mets 1, 1, 1, 1 16 fois, eh bien, ça représente en fait 65 545, une suite de 16 1 en termes de nombre, si vous voulez. Et du coup, ça veut dire que j'ai une nuance j'ai 65 000 nuances possibles en fait sur chacun des 44 millièmes de seconde. C'est ça le son d'un CD en fait. Hein. Et du coup, qu'est-ce qu'il y a sur le CD? Ben en fait, il y a tous ces blocs comme ça, de 16 bits, les uns derrière les autres. Le problème de ça, c'est que si je regardais mon CD, qu'est-ce que je vois? Mais je vois, ça n'a aucun sens. Je veux dire, c'est des cuvettes, ça n'a strictement aucun sens. Pour que ce CD puisse être lu, il faut connaître sa structure. Il faut une machine, un lecteur, qui sache que le son, il est comme ci, comme ça. Et du coup, si vous voulez, il y a besoin, dans le numérique, contrairement à l'analogique, je prends une photo, je prends un film 35 mm, imaginons, on retrouve dans 300 ans, on retrouve une copie 35 et un DVD. Ben, la copie 35, je vois le film, et si je suis un peu malin, je peux même construire le projecteur avec pas beaucoup de temps et je peux reproduire à nouveau ce film. Le DVD, il y a quelques milliards de microcuvettes, je le vois, pas de souci, hein, je vois bien qu'il y a des 0 et des 1, mais ça n'a strictement aucun sens si je n'ai pas la clé, si je n'ai pas le code, si je n'ai pas ce que c'est, en fait. Hein. Et ça, c'est un problème de pérennité du numérique et par rapport auquel la question du logiciel libre est très importante. Parce que si vous voulez, prenez Microsoft, prenez votre document Word, vous écrivez un texte dans votre document Word, à la fin, ça se retrouve, c'est des 0 et des 1, de la même manière. Et ces 0 et ces 1 contiennent un code qui est un secret industriel, protégé par des brevets, qui est la manière de coder la largeur de la page, le gras, la police de caractère, enfin tout ça. La façon dont l'information
est organisé, c'est un secret. Et ben oui, c'est là-dessus qui, c'est ce qu'ils nous vendent, en fait. Le jour où Microsoft aura fait faillite, qui arrivera sans doute un jour, remplacé par Google, eh ben, il est où, ce brevet? Qui c'est qui l'a? Peut-être que cette chose qui nous paraît évidente aujourd'hui, qui nous paraît comme aussi simple qu'une image, d'ouvrir un document Word en double-cliquant dessus, si le brevet est perdu, eh ben peut-être tous ces documents Word, ils n'existeront plus, parce qu'on ne saura pas comment les décoder. Alors, en l'occurrence, c'est un peu facile ce que je dis, parce que ce n'est pas vrai pour les documents Word, enfin, Microsoft protège, mais si vous voulez, c'est comme le Coca-Cola. On n'a pas la recette du Coca-Cola, mais on essaie d'analyser. Et en fait, c'est pour ça qu'au départ, avec OpenOffice, quand on ouvrait un document Word, la mise en page se cassait un petit peu la gueule, parce que c'est ce qu'on appelle du reverse engineering, c'est-à-dire qu'ils essaient de comprendre, mais sans avoir accès. C'est du piratage, en fait, hein, qu'on essaie de faire tout le temps. Bref, ça, c'est une question pour la pérennité du numérique. Une image, c'est plus simple, une image, en fait. Une image, eh bien, elle est composée de pixels, en fait. Donc, il suffit d'aller mettre derrière la surface sensible de ma caméra ou mon appareil photo, d'aller mettre plein de petites cellules photoélectriques, quelques centaines de milliers en fait, toutes petites, qui vont capter la quantité de lumière, si vous voulez, à chaque endroit de l'image. Et je vais pouvoir, de la même manière qu'avec le son, je vais pouvoir transformer ça en des nombres. Une chose que je veux vous dire, c'est que le problème du numérique, c'est la quantité d'informations. Il y a énormément de 0 et de 1. C'est-à-dire que, par exemple, pour enregistrer une image de télévision standard, eh bien, ça prend 30 mégaoctets par seconde. C'est-à-dire que c'est énorme, quoi. C'est énormément de données. Votre connexion Internet, elle est capable de faire passer au maximum 1 mégaoctet par seconde. Voyez, pour les bonnes connexions. Et la vidéo, pas haute définition, hein, en définition standard, ça en prend 30. La vitesse de votre disque dur d'aujourd'hui, c'est peut-être en lecture, il lit peut-être 20 mégaoctets par seconde. Voyez, c'est énorme. Pour avoir 5 minutes de vidéo, je ne sais pas combien. Enfin, si vous voulez, c'est. En fait, ça prend trop de place. Surtout l'image, le son un peu moins, mais surtout l'image, ça prend trop de place, ça passe pas dans nos tuyaux, et donc on est obligé de compresser, de réduire la qualité, si vous voulez, d'enlever des informations pour que ça passe dans nos tuyaux. Bon, alors là, c'était pour vous le faire très vite sur le numérique et qu'est-ce que c'est que la technique du numérique. J'espère avoir apporté. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Ok, oui.
Juste un point qu'on oublie souvent, l'énorme différence entre l'analogique et le numérique, c'est la facilité. L'énorme différence entre l'analogique et le numérique, c'est la facilité de copie. Lorsqu'on fait des copies de copies en analogique, que ce soit le son ou l'image, on dégrade énormément la qualité. Alors qu'en numérique, comme on copie effectivement que des 0 et des 1, la copie est strictement identique à l'original. Ce qui a facilité, entre parenthèses, énormément le piratage.
Alors, ce que vous dites est absolument juste techniquement, mais par contre, le problème du numérique, c'est que ça prend tellement de place qu'il faut réduire la qualité au départ. Et du coup, ce qu'on va copier en effet à l'identique, c'est quelque chose dont on a dû fortement réduire la qualité par rapport à l'original, si vous voulez. Donc en fait, ce qu'on copie, par exemple, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais à l'arrivée du CD, il y a eu beaucoup de mélomanes qui ont dit « mais le CD, c'est pourri, c'est nul le son du CD ». Et c'est vrai d'ailleurs, par rapport à un bon micro-sillon avec une bonne chaîne, le CD, on a beaucoup moins les détails, etc. Et d'ailleurs, c'est pourquoi aujourd'hui, en enregistrement professionnel, on n'enregistre plus à 44,1 kHz, mais on enregistre à 192 kHz, et on n'enregistre plus à 16 bits, mais à 24 bits, donc au lieu d'avoir 65 000 nuances sur chacun des échantillons, on en a 16 millions maintenant pour avoir un son. Et là, le son numérique aujourd'hui est devenu de bonne qualité. Mais c'est vrai que le son du CD, c'est pas génial. Mais le MP3, c'est encore pire, si vous voulez. C'est le CD réduit. Et du coup, c'est ça un petit peu le paradoxe du numérique. C'est vrai qu'on peut copier à l'infini, mais on copie des choses qui sont d'assez faible qualité. Et en fait, notre appareil photo, mon vieux Minolta d'avant les appareils photo numériques, faisait des photos extraordinaires. Je peux vous dire que les diapos Kodachrome sur un écran comme ça, c'était magnifique, quoi. Et les appareils photo numériques, maintenant on a des appareils avec des bons pixels, mais c'est quand même, ça n'a pas du tout la même qualité. Hein. Donc il y a eu, comme ça, c'est pareil. Aujourd'hui, ça s'est amélioré. Mais quand on a commencé à avoir les écrans plasma que tout le monde a acheté parce que c'est plus pratique, etc., mais si vous aviez mis à côté votre écran plasma et votre vieille télé, elle est 10 fois mieux en termes de qualité, en termes de qualité d'image, de finesse que l'écran plasma. Du coup, il y a une sorte de fascination comme ça, de facilité, en effet, mais qui ne va pas de pair avec une qualité d'image et de son, paradoxalement. Alors, maintenant, parlons, c'est bon pour la technique, maintenant parlons un petit peu plus des différents enjeux. J'étais vraiment intéressé par les enjeux que j'ai entendus là tout à l'heure sur la question de la médiation dans la salle de cinéma et de la façon dont on peut traiter ces nouvelles images et ces nouveaux films. Moi, ce que je voudrais vous dire, c'est que dans les nouveaux écrans, on a dit qu'il y avait 3 écrans à un moment donné, donc le cinéma, la télévision et l'internet. C'était les 3 écrans de diffusion de l'audiovisuel. Et puis à un moment donné, en 2005, le téléphone mobile est arrivé, et en fait tous les producteurs de télévision, surtout, se sont dit « Waouh, les opérateurs de téléphone mobile, c'est absolument scandaleux l'argent qu'ils gagnent sur notre dos, c'est la honte, vraiment. » D'ailleurs, ils ont eu des amendes très importantes hein, pour ça. Il y a quelques années, parce qu'il y a des ententes, il faut ce jeu de la concurrence, etc. Et c'est d'ailleurs pour ça que les 3 opérateurs, Bouygues, SFR et Orange, font tout, mais toutes les choses les plus honteuses pour que Free ne réussisse pas, parce que Free a obtenu la licence, et si Free rentre dans la téléphonie mobile, mais ça va se faire, les prix vont baisser, et ils ne veulent pas que les prix baissent. Bref, quand le téléphone mobile est arrivé, et qu'on pouvait voir la vidéo sur le téléphone mobile, tous les producteurs se sont dit « Ouais, il y a tellement d'argent, là, il y a un marché pour nous. » Donc tout le monde s'est dit « On va faire de la télé sur mobile, etc. » Il y a même eu des projets étatiques, notamment, je ne sais pas si vous avez entendu parler, de la TMP, la télévision mobile personnelle, qui était un projet d'une télé sur mobile, le CSA a lancé un appel d'offres, les chaînes de télévision, Luc Besson a présenté son projet de chaîne, il a obtenu, enfin, tout un truc, mais c'est un truc qui n'existera jamais. Parce que en fait, c'était une télé broadcast, c'est-à-dire qu'il fallait acheter un nouveau téléphone avec une antenne, comme une vieille antenne de télé, et puis là-dessus, on avait des canaux de télé, quoi, mais qu'on pouvait consulter en mobilité. Bon, ça marche pas mal au Japon et en Corée, mais ils ont mis ça en place depuis longtemps. Le problème, c'est que pour que ça marche, il fallait installer plein d'antennes partout, des antennes relais, comme les antennes de téléphonie mobile. Et en fait, si vous voulez, l'État a dit... c'est aux opérateurs d'installer ces antennes. Mais eux, ils ont dit, mais on ne peut rien vendre, parce que c'est une diffusion broadcast, donc ils ne peuvent même pas calculer qui regarde quoi, si vous voulez. Et du coup, bah, ils ont dit, mais on ne va pas payer ces antennes alors qu'on n'a rien à y gagner. Bref, c'est quelque chose qui n'existera jamais. Tout ça pour dire qu'il y a eu un peu, à un moment donné, on s'est dit, il y a le 4e écran, le téléphone mobile, c'est un 4e écran, ce qui commence à être vrai depuis l'arrivée de l'iPhone, et puis maintenant tous les téléphones sont des ersatz de l'iPhone, et c'est vrai que c'est un truc où l'écran finalement est quand même d'assez bonne qualité, on peut regarder quelque chose. Et puis maintenant on en est au 5e écran, qui est le jeu vidéo. Alors c'est pas vraiment un écran, hein, le jeu vidéo c'est quoi? C'est sur une console, mais on va voir qu'il y a beaucoup de liens entre l'audiovisuel et le jeu vidéo. Pour regarder ces phénomènes, pour essayer de... Mon but, c'est d'essayer de vous donner un petit peu des outils pour regarder tout ça. Par exemple, je vais sur lemonde.fr, par exemple, et je vois qu'il y a plein de web documentaires. Alors, je ne sais pas si vous connaissez tous le web documentaire. Je vous invite vivement à... Alors, ce que je fais, si vous voulez, c'est qu'en parallèle, du coup... Comme je donne quelques exemples, du coup, je les mets dans le document, et puis le document, vous pourrez le récupérer avec les URL. Hein.
Vous voyez là où?
Le web documentaire, c'est nouveau ça, le web documentaire. Voyage au bout du charbon, c'est un des premiers qui a été assez connu et réputé. Il est intéressant parce que c'est pas vraiment un documentaire sur une actualité, quoi. Bon, c'est les mines de charbon en Chine. Et puis, ça a eu un énorme succès, ce web documentaire. Mais après, je ne sais pas, on voit YouTube. Je ne sais pas si vous connaissez ce film, Battle at Kruger. Absolument passionnant. On en parlera. Et puis, je sais pas, Arte Live Web, vous voyez ce que c'est Arte Live Web? Arte Live Web, ben, si vous voulez, Arte, ils savent, c'est un service public, c'est bien, Arte, ils travaillent vraiment sur le web. C'est-à-dire qu'ils savent, et vraiment c'est bien, comme la BBC d'ailleurs, la BBC depuis beaucoup plus longtemps travaille beaucoup sur le web, ils savent que leur public, c'est pas que les gens qui sont assis devant leur télé. Dans leur mission, c'est aussi de l'audiovisuel sur le web, et ça produit quoi? Ça produit par exemple Arte Live Web. C'est un site sur lequel vous pouvez voir des captations de plein de spectacles vivants qui passeront jamais nulle part à la télévision et même pas sur Arte, mais qui sont enregistrés et qu'on peut découvrir sur le site internet Arte Live Web. Alors, ce qui n'est pas évident, si vous voulez, c'est que pour les producteurs, bah, du coup, avant, quand on filmait un spectacle, on avait un petit peu des moyens parce que c'était diffusé à l'antenne. Et là, bah, du coup, il faut filmer des spectacles pour 3000 euros, tout compris, quoi. Payer les gens, le tournage, le montage, etc. Du coup, on entre aussi dans d'autres économies. Prenons Dailymotion, Rémi Gaillard, je ne sais pas si vous connaissez Rémi Gaillard. Il y en a qui ne connaissent pas Rémi Gaillard. On va en parler un petit peu plus tard. C'est quelqu'un de très important aujourd'hui, à mon sens. Bon, il se passe plein de choses. Aïka, vous connaissez Aïka? Aïka, c'est vachement intéressant. Ah, mais là, c'est la version anglaise. Bon, c'est français, hein, au départ, Aïka. Aïka, c'est intéressant parce que ça représente un peu ce qui se passe aujourd'hui médiatiquement. Donc, je vous le raconte rapidement et ensuite, j'en arrive à ma petite grille d'analyse. Aïka, au départ, c'est un site de vidéos communautaires. C'est-à-dire, les gens peuvent mettre des vidéos en ligne. Tenez, avant... Je suis connecté toujours. C'est une sorte d'agence de publicité, Aïka. C'est-à-dire que je suis la marque Lays, voilà, et je veux faire ma prochaine publicité virale. C'est-à-dire, le viral, c'est la publicité que les gens ont envie de s'échanger. C'est-à-dire qu'on utilise les gens comme eux-mêmes vecteurs de la diffusion de sa publicité. Au lieu de s'adresser à une agence classique et de dire, ben voilà, moi je veux vendre mon produit, je veux montrer qu'il est très bon à manger, voilà, eh bien, il annonce sur Aïka, gagner jusqu'à 9000 euros, sympa, et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut réaliser le film publicitaire, donc c'est ouvert à tout un chacun, il faut réaliser le film publicitaire pour Lays, suite à un pitch, si vous voulez, si je vais, la connexion est un peu lente, on peut voir ce qu'il dit. On met en ligne la publicité, donc pour chaque concours, il va y avoir, je ne sais pas, 15, 20 publicités, et puis ensuite, ils se servent et ils prennent celle qui leur semble la meilleure, et ils donnent 3000 euros aux participants, qui sont très contents, ou 9000 euros, enfin, à mon avis, il y a plusieurs prix, peut-être plusieurs niveaux. Ces publicités-là, au départ, c'était uniquement les publicités virales du web, parce que c'était lié au web, et en fait, ces publicités-là marchent bien mieux que des publicités d'agence, parce que c'est pas très bien fait, on sent que c'est un peu des amateurs, etc. Mais du coup, c'est beaucoup plus authentique, entre guillemets. Donc on a vachement plus envie de se le transmettre, vous voyez. Ça, c'est le marketing d'aujourd'hui, on va dire. C'est-à-dire qu'en fait, faire participer les gens, c'est ce qui va nous faire gagner de l'argent. Si on est Lays ou Aïka ou Google ou YouTube. Parce que si je vais sur YouTube voir Battle at Kruger, qui est vraiment un film génial, j'ai quoi à côté là, hein? Si je vais sur Dailymotion, j'ai quoi hyper gros en plus derrière la vidéo, etc. Une publicité pour, en l'occurrence pour Microsoft. Donc si vous voulez, pour être très concret, ces publicités que vous voyez à côté, c'est vendu, ces espaces-là, ils sont vendus. C'est quelque chose qui s'appelle le CPM, c'est-à-dire le coût pour 1000. Hein. C'est-à-dire que lorsque 1000 personnes ont vu Battle at Kruger, eh bien, l'annonceur qui est... Bah, c'est bizarre, c'est français, ça. Bon, enfin bref, je suis sans doute pas ciblé. L'annonceur paye, on va dire, entre 5 et 10 euros à YouTube. Elle a été vue combien de fois cette vidéo? 56 millions. Et je peux vous dire que même à 5 euros les 1000, ça représente beaucoup, beaucoup d'argent. Et quand on sait qu'il y a 24 heures de vidéos mises en ligne chaque minute, ils s'en foutent qu'une vidéo soit vue que 500 fois. Parce qu'il y en a tellement qui sont mises. C'est une manne financière gigantesque, en fait. Rémi Gaillard, c'est un humoriste du web, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui fait des conneries et qui se filme. Voilà, c'est... Si vous voulez, la connexion, je ne sais pas pourquoi elle était plus rapide tout à l'heure. Là, par exemple, c'est Mario Kart. Alors, il s'est déguisé en Mario. C'est, vous voyez, techniquement, c'est tout pourri, la qualité d'image, etc. Mais il s'est déguisé en Mario. Il a pris un kart, le Mario du jeu vidéo. Et puis, voilà, il va dans la rue, il jette des pots de bananes par terre et tout. Voilà. Et après, c'est très transgressif. Souvent, il vole les képis des flics, il se fait poursuivre, il se fait arrêter. Enfin, il y a toujours un petit peu ça. Et si vous voulez, Rémi Gaillard, franchement, c'est une des stars du web. Hein. Il n'y en a pas tellement deux comme lui. Mais c'est un exemple intéressant. Vous voyez combien de fois il a été vu cette vidéo ? 8 400 000 fois. Je peux vous dire qu'à 10 euros les 1000, ça fait 80 000 euros. Et il se trouve que Rémi Gaillard, il est, parce qu'ils ont été obligés de passer à ce type de modèle-là, c'est-à-dire que Rémi Gaillard, il fait gagner beaucoup d'argent à Dailymotion, hein, mine de rien, en faisant ces machins. Sauf qu'il est créatif, là. C'est-à-dire qu'il est inscrit à un programme, vous pouvez le faire vous-même, chez Dailymotion, où il fait un partage des recettes. C'est 50-50. C'est-à-dire que pour sa vidéo, il a touché dans les 40 000 euros. Il en a fait beaucoup, hein, des vidéos.
Voilà. Les autres, c'est Dailymotion qui garde le reste.
Absolument. Et c'est ce qui est arrivé à celui qui a. Parce que Battle at Kruger, c'est pas 8 millions, c'est 56 millions. Donc ça fait beaucoup, beaucoup plus d'argent. Mais lui, il n'a rien eu parce que lui, si vous voulez, c'est un gars, il est dans le parc national de Kruger en Afrique du Sud. Et il se trouve que devant lui se passe une scène totalement extraordinaire qui filme avec son caméscope. Et pourquoi il la met sur YouTube ? YouTube, c'est, il n'y est plus là la baseline, mais YouTube, c'est broadcast yourself, c'est-à-dire partage avec des amis, tout ça. Et il met ça parce que c'est trop extraordinaire. Vous avez vu cette vidéo ?
Ouais, ouais.
Ben, si vous voulez, il y a des gnous, en fait, qui boivent au bord d'une rivière, les papas, les mamans et le bébé gnous qui boivent. Et en parallèle, on voit des lionnes qui se préparent à l'attaque, qui attaquent finalement et qui chopent le petit bébé gnou. On dit, bon, le pot, ok, il va se faire bouffer, quoi. Sauf que c'est au bord de la rivière et qu'à ce moment-là, des crocodiles arrivent et leur disputent le bébé gnou, donc entre les lionnes et les crocodiles. Qui essaient, on dit, allez, il va, le pauvre. Et à ce moment-là, les gnous se rassemblent. Et les lions réussissent à faire partir les crocodiles, les gnous attaquent les lions et sauvent leur bébé. Vous imaginez ? C'est quand même, c'est pas des choses qu'on voit tous les jours. Donc ça, moi je comprends, et c'est génial, on a YouTube, le type il a filmé ça, et c'est hyper mal filmé, il parle en même temps, il zoome et tout ça, mais c'est pas grave. C'est ça la production. Le web 2.0, c'est ça. Et si vous voulez, sauf qu'il y a de l'argent, c'est-à-dire que derrière, parce que YouTube, vous savez, a été racheté par Google en 2006, en fait, hein, c'est une start-up qui a été montée en 2005, et au bout d'un an d'existence, ça a été racheté donc en 2006 par Google pour $1 milliard, enfin, les gars qui ont créé la start-up, ça, c'est bien pour eux, et si vous voulez, c'est de l'argent, et alors si vous voulez, il y a les publicités à côté, et après, vous savez, on peut mettre, comme on dit, faire un embed du player, c'est-à-dire mettre le lecteur dans son blog, etc. Dans ce cas-là, il n'y a pas la publicité. Sauf que maintenant, et ça vient, il y a ce qu'on appelle la publicité in-stream, c'est-à-dire celle qui est sur l'image. Et ça, on l'a dans son blog. Et donc, elle est vendue à d'autres tarifs, etc. etc. Et du coup, lui, il n'a pas gagné. Alors, maintenant, du coup, c'était plus possible, ça. Et du coup, maintenant, bien sûr, il y a des programmes aussi sur YouTube. On peut aussi faire un partage de recettes. Mais vous comprenez bien que pour que ça marche, c'est l'exception. Des Rémi Gaillard, ça fait quand même longtemps qu'il bosse. Hein. Je veux dire, c'est pas au hasard. Il y en a plein qui essaient de faire du succès. C'est pas si simple. Hein. Il est très fort. Mais si je fais 1000 vues, c'est déjà vachement bien. Mon film, il est vu par 1000 personnes. bon, j'ai 4 euros. Vous voyez, donc c'est pas. Mais par contre, la multiplication de tout ça pour les sites, pour eux, ça représente. Bref, il y a tous ces phénomènes, si vous voulez, avec des gens qui les travaillent. Par exemple, il y a une organisation anglaise qui s'appelle Power to the Pixel, qui est un lieu, et d'ailleurs c'est la semaine prochaine, le Cross Media Forum. Alors, le Cross Media, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Le Cross Media, je vais vous l'illustrer avec TF1. TF1. Ils vivent de la publicité. Sauf que pendant longtemps, il y a eu quelques chaînes en France, donc la publicité audiovisuelle, le coût de l'écran publicitaire chez TF1 était mesuré bien sûr par rapport à son audience et valait un certain prix. Mais l'audience de TF1, enfin, elle a monté un petit peu, mais enfin globalement, elle s'érode, elle baisse de jour en jour. Bonne nouvelle. Mais pourquoi elle baisse ? Parce qu'en fait, il y a plein d'autres chaînes, il y a la TNT, il y a Satellite, tout ça. En plus, chez les jeunes, principalement, il y a la concurrence d'Internet. C'est absolument naturel que l'audience de TF1 baisse et ils n'y pourront jamais rien. Je veux dire, c'est tout à fait naturel. Et ils le savent, ils ne sont pas idiots, ils ne vont pas chercher à se battre contre des moulins. Ils savent très bien que ce n'est pas que c'est fini, mais l'équilibre change, c'est normal. Et du coup, et en même temps, en parallèle, ils voient qu'il y a des gars comme Google, des jeunes gars qui n'ont même pas 35 ans, qui sont milliardaires, etc., ils disent, mais c'est. Et puis ils diffusent des vidéos et qui se font des. Bref, en diffusant des vidéos comme ça. Et en plus, des vidéos d'amateurs. Et ils se rendent compte qu'en fait, ce qui intéresse les gens sur Internet, il y a les séries, on télécharge des séries, etc. Oui, bien sûr, ça intéresse les gens. Je ne dis pas qu'on s'en fout, mais toute la production amateur, en fait, elle est. C'est ça qu'on a envie de se partager. Et du coup, bah, qu'est-ce que fait TF1 ? Il crée son propre site de vidéos communautaires, Watt TV. Ça fait quelques années donc, déjà qu'ils l'ont créé, je pense que Watt.tv, je crois. Et puis TF1, ce qu'ils essaient de faire, si vous voulez, maintenant, c'est que quand ils font, je sais pas, ça fait quelques années que j'ai plus la télévision, donc je sais pas exactement ce qu'ils font, mais enfin, quand ils font un jeu, un truc, toute leur production, si vous voulez, eh bien, ils vont essayer d'articuler ça avec. Une sorte de forum sur le web avec un jeu, on va essayer de faire en sorte que les gens participent, etc. Parce que comme ça, ils mettent de la pub aussi dans Watt TV. Et c'est ça qu'on appelle le cross-média, c'est d'essayer de faire un produit, parce que là on parle bien de produit, un produit qui soit sur différents médias, c'est-à-dire qu'on prend acte du fait que l'audience est fragmentée aujourd'hui, on en prend acte, ok, elle est fragmentée, et bien on travaille avec. On fait en sorte de faire que les gens ils regardent un truc sur TF1, qu'après ils vont sur le site, qu'ils achètent le jeu vidéo, qu'ils votent avec leur téléphone mobile, et à chaque fois on essaie de faire en sorte soit de facturer, soit de mettre de la publicité, etc. etc. Le cross-média, c'est un projet commercial au départ. Voilà. Et si vous voulez, il y a des gens qui réfléchissent là-dessus, et notamment Power to the Pixel, qui sont d'ailleurs des gens très bien, et qui font en ce moment des cross-média, forums, des rencontres, etc., sur comment on peut faire pour attraper les gens, comment on peut faire pour les fidéliser à l'ère de la fragmentation des médias. Hein. Il y a aussi des gens en France assez intéressant, quoique très partiaux. Attendez, je vous mets juste ce lien aussi. Le transmédia, alors ça a deux noms. Il y a le cross-média et le transmédia. Ça veut dire la même chose. Rien de sexuel. Le transmédia, où est-ce qu'ils sont ? Le transmédia lab, je l'ai mis quelque part, je ne sais plus. Moi, je ne sais plus. Ben, sinon, je vais le rechercher. Le transmédia lab, je vous le montrer quand même. C'est pour Orange en fait qui a monté une sorte de laboratoire de réflexion, ils essaient de soutenir des projets, etc. Ça s'appelle Transmedia Lab et ils réfléchissent sur toutes ces choses là. Je peux vous dire que l'avenir, si j'ose dire, de la production commerciale audiovisuelle passe par le cross-média. Tout le monde pense ça aujourd'hui. Le CNC depuis 3 ans a mis en place un dispositif de soutien à des projets très expérimentaux cross-média, dans tout ce qui est nouvelles technologies et nouveaux médias. Il développe beaucoup ça. Et d'ailleurs, il s'appelle Centre National du Cinéma et de l'Image Animée. Ils viennent de changer de nom. Hein, ce n'est plus le Centre National du Cinéma. Ils ont rajouté l'Image Animée. Donc, ils ont vraiment ouvert leur champ de façon beaucoup plus large qu'avant. Et ils essaient vraiment, si vous voulez, eux, leur but, c'est quand même le développement industriel du secteur. Et du coup, ils essaient de soutenir à tout un tas de projets cross-média. Et vous comprenez bien que c'est quand même pas très artistique, généralement, ces choses-là. Mais bon, il y a des gens qui essaient. Et il est vrai que dans le web documentaire, il y a quelques sociétés comme Upian, par exemple, qui est une société qui produit pas mal de web documentaires. Je vous mets le lien aussi. Il y a des sociétés comme Onkytonk Film, qui ont produit Voyage au bout du charbon, par exemple, qui est très bien. Mais ils essaient de vendre. Par exemple, ils ont produit ce truc qui s'appelle iRock, qui est une expérience interactive dans les coulisses des Eurokéennes. C'est-à-dire, vous êtes, c'est en vidéo, c'est une sorte de vidéo interactive, vous baladez, vous dialoguez, c'est pas vous qui dialoguez, mais ça vous donne l'impression de vous balader, de choisir un petit peu votre chemin en vidéo comme ça. Parce que le web documentaire, c'est quand même très diaporama, en fait. C'est une photo avec une voix off, on retrouve vraiment le diaporama dans le web documentaire. Il y a des gens comme eux, ils ont produit ça avec un peu d'argent des Eurokéennes de Belfort, et puis ils ont cherché à le vendre à un diffuseur. Ils ont trouvé Orange, qui a trouvé intérêt à diffuser ça sur son site. Donc, vous voyez, c'est des nouvelles façons de produire. Et les chaînes de télévision savent que, de toute façon, il faut en passer par là pour continuer à exister. Et même Arte, comme je vous disais, qui se dit, moi, mon audience, j'imagine qu'ils ont fait des études un peu de marché. Les gens qui regardent Arte, ils aiment bien voir des concerts filmés, des captations, etc., des spectacles. Donc, on va le faire, on va proposer ça sur le web. Donc, ce que je vous ai raconté là très rapidement, si vous voulez, c'est un peu un ensemble de... Justement, comment on peut regarder tout ça? Parce que c'est très multiple. Après, il y a aussi des artistes contemporains qui font des trucs, qui utilisent des nouveaux médias, qui font des machins interactifs, etc. Comment on peut aborder tous ces sujets? Par quel bout les prendre? Parce que par le bout artistique, par le bout commercial, technologique... Moi, si vous voulez, il me semble qu'il faut regarder dans quatre manières, en fait, ces choses-là. Pour moi, il y a d'abord la technologie. Ça, c'est vraiment c'est la base. C'est-à-dire que sans technologie, il n'y a pas de cinéma. Le cinéma, c'est une technologie, c'est l'invention d'une technologie qui permet ensuite un certain nombre de choses. Mais qui permet quoi? Il y a la technologie, Internet, ça existe. Le SMS, Short Message Service, un truc pour des techniciens, ça existe. Mais ce n'est pas du tout quelque chose sur lequel on fait du marketing. Et puis, il se trouve que les gens s'en servent. C'est ce qu'on appelle des usages. Une technologie sans usage, ça ne sert à rien. Je pourrais vous en citer plein. Je ne sais pas si vous vous rappelez du D2 MacPaquet, par exemple, dans les années 80. Une norme de télévision haute définition, fabuleuse, franco-français, vraiment de télévision. Ça jamais... si vous voulez, il y a tout un tas de technologies qui ont été inventées, qui n'ont jamais rappelé... Vous vous rappelez du mini-disque? Couper son âme, la cassette audio. Enfin, donc, si vous voulez, est-ce que vous vous rappelez, il y a beaucoup moins de. Vous voyez ce que c'est que le Blu-ray? Est-ce que vous vous rappelez du HD-DVD? Non. Le HD-DVD, si vous voulez, quand on a voulu sortir une version haute définition des Blu-ray, il y a deux normes qui se sont affrontées. Le Blu-ray d'un côté, et puis il y en a un des deux qui a gagné. Donc, vous voyez, il y a tout un tas de technologies qui n'ont pas trouvé leur usage. Pourquoi? C'est simplement parce que Warner, au départ, qui dictait son catalogue dans les deux normes, un jour a dit « Non, mais on passe qu'au Blu-ray, on arrête. » Donc, du coup, il n'y avait plus de produits. Donc, ceux qui avaient acheté un lecteur HD-DVD, parce qu'en fait, le HD-DVD, c'était mieux que le Blu-ray techniquement. Bon, mais ça, tant pis. Mais c'est comme la VHS. Vous vous rappelez du V2000 et du Betamax? Oui. Les deux concurrents de la VHS? le format le plus mauvais techniquement, c'était le VHS. Et c'est celui-là qu'on a eu. Parce que, si vous voulez, il y a une question de catalogue, de politique, de marketing. Donc, il y a une technologie, il y a un usage. Il y a un truc vachement intéressant, c'est que, prenez Google. Google, ça sert à quoi? Google, c'est une révolution absolue dans la façon d'indexer les sites Internet. C'est-à-dire que là, ce que Google change, c'est qu'avant Google, vous vous rappelez de Yahoo? c'était Yahoo Alta Vista avant Google. Et en fait, fallait, si on avait un site, il fallait s'inscrire dans Yahoo, il fallait faire ce qu'on appelle du référencement, il fallait s'inscrire, mettre les mots-clés. Si on payait, on était plus en avant dans les recherches, etc. Et les deux fondateurs de Google, Larry Page et Serge Lourin, qui sont des mathématiciens hors pair, ils ont eu une idée absolument géniale, c'est de se dire, mais en fait, c'est nul ça, parce que du coup, c'est pas de la vraie recherche. Et ils se sont dit, mais nous, ce qu'on veut faire, c'est que quand quelqu'un tape une recherche, c'est qu'en fait, on va lire dans les sites internet et on va de façon automatisée, on ne s'inscrit pas à Google. C'est Google qui marche tout seul, en fait. C'est un robot qui va lire le contenu de tous les sites internet et qui l'indexe par pertinence. C'est-à-dire que si par exemple je cherche rachat de crédit, par exemple, je suis dans la merde et tout, faut que je, voilà, je cherche rachat de crédit dans Google. Qu'est-ce que je vais trouver comme site, si vous voulez, hein, si ça marche? Je vais trouver des sites, sans doute des blogs, des trucs comme ça, dans lesquels les pages, le titre de la page, ça va être rachat de crédit, il y aura écrit plusieurs fois dans la page, vous voyez. Alors, ceux-là, on en parlera juste après, c'est, voilà, ils sont importants, mais voilà, rachatdecrédit.org, et vous voyez que dans la page, je ne vais pas aller sur la page, ma connexion est lente, mais ils utilisent plein de fois le mot rachat de crédit, etc. Par conséquent, c'est une page pertinente, vu que Google est très intelligent, sur le thème du rachat de crédit. Et alors, en fait, il y a deux arguments. Il y a d'une part la pertinence de contenu de la page par rapport à sa requête, et puis il y a d'autre part combien de liens mènent vers cette page. Si deux sont à équivalence, ben voilà, c'est celle qui a le plus de liens. Et en fait, il y a tout un tas d'autres paramètres. C'est un secret industriel aussi, c'est-à-dire l'algorithme de classement de Google.